Vous avez le sentiment que la pandémie, malgré la dimension catastrophique, épouvantable et tragique, évidemment, dans laquelle nous sommes, peut constituer une sorte de moment fondateur où il y aura quelque chose qui changera à jamais dans la perception des gens par rapport à l'écologie, au réchauffement climatique.
Oui, ce que je pense, c'est que c'est un moment où nous réalisons que nous sommes profondément vulnérables et que cette question de vulnérabilité et aussi de dépendance par rapport à des choses que nous ne maîtrisons pas peut être une manière de remettre en cause, certainement en tout cas, le mythe de notre toute-puissance, le mythe d'un progrès technique qui nous emporterait toujours vers le mieux. En tout cas, c'est ce constat de vulnérabilité sur une ambiance qui est quand même profondément sinistre. Donc, c'est quelque chose qui certainement amène à poser des interrogations plus fondamentales que lorsque le cours de la vie semble aller bien.
Lucille Schmitt, lorsqu'on est confiné, on est nécessairement décroissant, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup moins. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une sorte d'effet de compensation à la fin du confinement dans tous les pays, on le verra peut-être d'ailleurs en Chine, et que la consommation reprenne de façon frénétique après coup?
Frénétique, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair qu'il y aura un effet rebond de consommation parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de frugalité qui n'est pas une frugalité heureuse, mais en tout cas une frugalité contrainte. Et donc, en retrouvant notre liberté de sortir de chez nous, il est probable que la liberté de consommer en fasse partie. Après, je suis pas sûre que. Enfin, tout le sujet, c'est au fond comment est-ce que les choses s'organisent dans le long terme. C'est-à-dire que. On voit bien d'ailleurs à travers cette question du confinement que la question du déconfinement, comment est-ce qu'on va assurer une espèce de continuité entre cette période inédite, étrange, assez catastrophique aussi que nous vivons, comment est-ce qu'on va retrouver ensuite pied dans une vie qui aura profondément changé, c'est aussi quelque chose d'important. Donc un effet rebond, comme on dit en économie, évident, ça ne signifie pas pour autant que nous allons être frénétiques, et ça me semble essentiel, parce que nous aurons. Pendant cette période de confinement, appris à regarder certaines choses qui autrement n'existaient pas pour nous. Par exemple, nous aurons appris à regarder autrement ce qui se passe dans la mondialisation, comme j'essayais d'expliquer dans le texte auquel vous faisiez référence.
C'est ça ce que vous expliquez, Lucille Schmitt, c'est que les structures de la mondialisation sont devenues visibles. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ce que j'entends par là, c'est que jusqu'à présent, au fond, on disait mondialisation. En quelque sorte, c'était une sorte de mondialisation automatique. Avec ce qui s'est passé en Chine, on a réalisé l'importance, l'accélération de la diffusion de la pandémie nous renvoie à l'accélération au fond des transports, de la manière dont nous circulons dans le monde. C'était pas pareil en 2003, c'était pas pareil en 2008. Donc en 2020, on circule beaucoup plus vite et la maladie a circulé aussi beaucoup plus vite. On l'a vu, il y a des cartes qui ont été montrées par rapport au hub de transport. Voilà. Donc on ne pouvait pas éviter cette pandémie et je rappelle quand même qu'il y a encore un mois et demi, 2 mois, on pensait quelque part que ça allait rester en Chine ou en tout cas rester en Asie. Donc au fond, on a réalisé l'importance de l'accélération à travers cette pandémie. La deuxième chose qu'on a réalisée, c'est l'extrême, je trouve, complexité, diversité de cette mondialisation. On voit les modèles culturels, on voit comment face à une même pandémie, on réagit autrement, on voit aussi comment les inégalités sociales existent. Donc ça fait apparaître beaucoup de choses que nous savions peut-être au fond de nous-mêmes, mais qui aujourd'hui ont une vraie visibilité. On voit apparaître aussi, je trouve ça très intéressant, la complexité de la Chine, c'est-à-dire que on le voyait comme notre usine, on le voyait comme quelque part, oui, quelque chose qui au fond exportait vers nous des produits qui allaient du numérique aux produits de très grande consommation. Et là, on voit ce qu'est au fond la Chine, la société chinoise. On découvre les marchés d'animaux vivants. On voit aussi la qualité de la médecine chinoise, mais on voit aussi ce que les manifestants hongkongais nous avaient dit, la nature de ce pouvoir qui a pu cacher la maladie. Aujourd'hui encore, le nombre de morts en Chine est un sujet de débat très important. Donc on voit apparaître aussi des complexités que peut-être nous n'avions pas envie de voir.
À propos de cette mondialisation et de la Chine à laquelle l'Europe et la France, en l'occurrence, avaient sous-traité énormément la fabrication de masques, mais aussi de médicaments qu'il se trouve aujourd'hui manqués dans les hôpitaux, est-ce qu'il faut relocaliser la fabrication de certains biens? Est-ce que c'est une urgence?
Je pense que c'est une urgence de s'interroger sur notre dépendance sur des produits stratégiques. Après, si on veut relocaliser des industries, il faut aussi se poser la question de notre tolérance par rapport à la relocalisation de l'industrie et comment
C'est-à-dire...
faire. Bah, écoutez, quand on a vu ce qui s'est passé avec l'accident de Rouen et le début de débat qu'il y a eu sur les usines dangereuses, on
L'usine
voit
de
bien.
Brésol, vous voulez dire, hein? Vous voulez parler
Oui,
de
je
l'usine
parle
de
de l'usine de
Brésol.
Brésol. En fait, on voit bien que la question de la relocalisation d'activités industrielles, ça pose des questions d'aménagement du territoire, de proximité par rapport à nos habitations, de nuisance. Donc, c'est important de se poser la question de notre dépendance et sans doute de relocaliser, mais il ne faut pas imaginer que c'est d'un coup de baguette magique que ça peut se produire. Et il faut dans ce cas-là, discuter sur comment est-ce qu'on fait interagir un tissu industriel, un environnement industriel par rapport à un tissu d'habitation. Lorsqu'on parle de plus en plus d'écologie, de nature, relocaliser l'industrie, inventer l'industrie verte, ça reste à faire.
Lucille Schmitt, les scientifiques ont pendant longtemps, à propos de l'Anthropocène, à propos du dérèglement climatique, à propos des ravages de la biodiversité, ils ont longtemps eu le sentiment de crier dans le vide. On peut remonter à René Girard, on peut remonter aussi évidemment aux membres du GIEC. Et puis tout d'un coup, là, il y a une sorte de consensus où la parole scientifique est sur le devant de la scène. Est-ce que ça vous donne de l'espoir qu'elle soit enfin entendue et que précisément, pour la suite, eh bien, les choses puissent être plus efficaces, plus effectives au niveau de la sanctuarisation des biens communs et de l'écologie.
Je pense que c'est assez passionnant, effectivement, la façon dont la parole des scientifiques dans le débat public prend une force nouvelle. Elle prend une force nouvelle à cause du fait qu'on voit bien comment, sur des questions de vie et de mort, ils sont à la fois sur le soin, sur je dirais, oui, le soin immédiat, et ils établissent une perspective de long terme avec la question des épidémies.
Et
Ils nous invitent
l'origine de
aussi.
la pandémie aussi, est-ce qu'il
Oui,
faut
l'origine de
faire
la
pour qu'il
pandémie,
n'y
ils
ait
nous
pas d'autres
invitent.
pandémies?
Voilà, il nous invite à penser le fait que d'autres pandémies peuvent arriver. Il nous invite à repenser notre interaction avec les écosystèmes en nous montrant qu'en les dérangeant, au fond, nous créons cette possibilité d'invasion du virus dans nos vies. Donc ça, c'est assez passionnant. Après, nous devons trouver une articulation entre science et démocratie, et on voit bien qu'en donnant plus d'importance à la science, ça signifie aussi que nous, citoyens, nous devons davantage développer une culture générale scientifique. Je pense que c'est essentiel. Je parlais de la complexité tout à l'heure. Je pense que on sait que notre monde va rester durablement complexe et quelque part que ceux qui nous dirigent, que nous avons élus et qui ont toute légitimité pour prendre des décisions, doivent aussi davantage écouter ceux qui parlent de complexité et davantage interagir avec les citoyens.
Merci.